Versets 14 à 20. Un jour, Jean est mis en prison. Alors Jésus va en Galilée. Il annonce la bonne nouvelle de Dieu. Et il dit, « Le moment décidé par Dieu est arrivé, et le royaume de Dieu est tout près de vous. Changez votre vie et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus marche le long du lac de Galilée. Il voit Simon et André, le frère de Simon. Ce sont des pêcheurs et ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur dit, « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissent leur filet et ils suivent Jésus. En allant un peu plus loin, Jésus voit Jacques et Jean, deux frères. Ce sont les fils de Zébédée. Ils sont dans leur barque et ils réparent leur filet. Aussitôt, Jésus les appelle. Ils laissent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et ils s'en vont avec Jésus.
Chers amis, frères et sœurs, je vous souhaite une très cordiale bienvenue à l'église de Dame Marie et je vous salue bien fraternellement en cette journée de sabbat. Ce zoo était le seul à posséder une espèce d'animal très rare qui faisait sa réputation, mais également ses importantes recettes. Il possédait un gorille albinos. Mais un jour, le gorille meurt. Les responsables du zoo sont inquiets, car ils vont perdre d'importantes recettes et leur réputation. Alors ils ont une idée. Ils décident d'utiliser un SDF à la journée afin qu'il remplace le gorille albinos. Le SDF accepte, il se pique au jeu et il fait des exploits les plus extraordinaires, de branche en branche et dans les airs, pour épater les enfants mais également les parents. Lors d'une voltige un peu plus difficile que les autres, il loupe sa réception et tombe dans la fosse aux lions. Il se met à avoir peur parce qu'il voit au loin les lions qui sont rassemblés et surtout il en voit un qui s'approche de lui. La peur, la panique, le trac s'emparent de lui et il sent que ses derniers instants sont arrivés. Il ne bouge plus. Il est paralysé par le trac, le lion approche toujours. Au moment où il est le plus près de lui, et lui il se dit c'est fini, c'est terminé pour moi, il entend le lion lui dire « Tais-toi, sinon tu vas nous faire peine notre job. » Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Si j'ai utilisé cette histoire, c'est simplement parce que le texte qui vient de vous être lu, quand vous le lisez dans Marc, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est vrai que le récit de Marc est un récit très sobre. Il y a 6 versets qui nous donnent l'intitulé de ce qu'on a appelé l'appel aux disciples. Alors Marc n'est pas le seul à parler de cet appel. Les 3 autres évangélistes, Matthieu, Luc et Jean, en parlent également, parfois avec des petites nuances. Mais ce qui m'a intéressé en prenant l'évangile de Marc, c'est que comme Marc est sobre, il nous oblige à nous poser des questions. Parce que, reconnaissons-le, quand on lit le texte, quand même étonnant, Jésus passe, il appelle les disciples, ils le suivent. Un inconnu vous rencontre dans la rue, il vous appelle, vous le suivez. Alors, j'ai relevé 4 types de questions qui m'ont interpellé. Les futurs disciples connaissaient-ils déjà Jésus? Pourquoi Jésus choisit-il ces hommes-là? Pourquoi utilise-t-il le vocable « pêcheur d'hommes » Et puis la dernière, l'Église a-t-elle toujours les moyens de répondre à cet appel? Alors, les futurs disciples connaissaient-ils déjà Jésus? Alors, si vous avez regardé les 2 premiers versets, 14 et 15, quand on les a lus, vous êtes aperçu que Nous sommes au début du ministère de Jésus. Jean-Baptiste a été arrêté par Hérode Antipas et les disciples qui suivaient Jean sont perturbés. Le lieu où se passe la scène, c'est la province de Galilée, et plus particulièrement le lac de Galilée, que l'on appelle également, dans certaines versions, le lac de Kinnéret, le lac de Tibériade ou de Génézareth, au choix. Mais pour nous, ce sera le lac de Galilée. Ce n'est pas un lac insignifiant, il mesure 21 km sur 12. On dirait une petite mer intérieure. Et les principales villes qui bordent ce lac sont Tibériade, Capernaum, Bethsaïda, Nazareth, Cana, Magdala, bref, des villes que l'on connaît, dont on est bercé quand on lit les évangiles. Nous nous apercevons que c'est donc dans sa région d'origine que Jésus va commencer son ministère. Alors, il est vrai que l'emprisonnement tragique de Jean, qui avait suscité au sein du peuple d'Israël un certain renouveau spirituel, crée de la part, dans la majorité du peuple, une attente frustrée, parce que Jean n'est plus là, il est arrêté. Elle avait fait naître l'espoir d'un renouveau spirituel, d'un Messie qui viendrait après lui. Jean le dit d'ailleurs, et si vous lisez dans Luc 3, les versets 15 et 18, Jean est interpellé par le peuple, « Es-tu le Messie ?» Et il répond, « Moi, je vous baptise d'eau, mais vient celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. » Il informe qu'il n'est qu'un messager, mais il n'a pas dit qui était celui qui viendrait derrière lui. Il l'a nommé en tant que Messie, mais on ne sait pas qui c'est. Et à la lecture de la déclaration de Luc, on peut comprendre que le peuple soit quelque part désemparé de ce maître à penser qui disparaît. Pour autant, si Jean a parlé, et il a beaucoup parlé, et si beaucoup sont venus près de lui, impossible de ne pas croire que les futurs disciples n'aient pas entendu parler de Jean ou de Jésus. Et d'ailleurs, si vous avez la curiosité de lire Jean 1, les versets 35 à 51, où Jean parle également des premiers disciples, vous apercevez qu'il y a un des disciples de Jean, Baptiste, qui s'appelle André, le frère de Simon-Pierre, et que André va suivre Jésus, et que André mettra en contact Jésus et son frère Simon, que Jésus appellera Pierre. Donc il y a eu déjà des prises de contact. Les disciples ne sont pas totalement ignorants concernant Jésus. Ils l'ont au moins entendu, peut-être pour certains vu, comme Pierre et André, et donc ce n'est pas totalement un inconnu pour eux. Car comment penser, quand on lit le texte de Marc, que tout d'un coup, sur le passage d'un inconnu sur le bord de la Grève, ils abandonnent leur métier, leur famille, tout ce qu'ils faisaient d'eux, et se mettent à suivre un inconnu. Ne prenons pas les disciples pour des gens qui agissaient à la légère. Comme chacun d'entre nous, ils avaient des espérances, ou une espérance, et attendaient peut-être de façon inconsciente un signe ou quelqu'un qui allait les faire se décider. Alors c'est vrai, à la lecture des différents évangiles, on s'aperçoit que, de Marc et de Jean surtout, on s'aperçoit que Jésus n'est pas un inconnu pour ses premiers disciples. Alors, se sont-ils posé la question de suivre Jésus ? André, oui, c'est très clair, Jean nous le confirme. Pour les autres, nous ne le savons pas. Pour autant, il faut reconnaître que l'implication qu'ils viennent de prendre pour cette mission et la plus belle des missions, même s'ils n'en connaissent pas aujourd'hui encore tous les contours, et que ça reste très flou pour eux. La seconde question qui se pose, mais pourquoi Jésus va-t-il choisir des pécheurs, alors qu'en Israël, il y a quand même des gens qui ont reçu une éducation, qui ont été dans des écoles rabbiniques? Pourquoi décide-t-il de s'entourer d'une équipe un peu particulière? Reconnaissons qu'aujourd'hui, si vous êtes responsable du pôle évangélisation dans votre communauté, ou au niveau d'une fédération ou d'une union, vous n'allez pas passer sur le bord de la route pour aller choisir n'importe qui. Vous allez de préférence prendre des gens qui ont des compétences. Vous allez choisir un ou plusieurs conférenciers, mais des gens qui sont connus. Vous allez choisir une personne qui sera responsable de la publicité, parce qu'il faut que l'affaire soit annoncée. Vous choisirez également un gestionnaire, parce qu'on a besoin de finances aujourd'hui. Et puis, vous prendrez aussi un responsable de l'organisation, parce qu'une campagne d'évangélisation, ça ne se programme pas comme cela. Qui, aujourd'hui, au sein de sa communauté ou de sa fédération, accepterait dans son équipe des personnes sans qualification pour lancer une campagne d'évangélisation? Je suis persuadé que personne n'accepterait de prendre un inconnu. Pourtant, Jésus va choisir des personnes qui, semble-t-il, ne sont pas qualifiées pour ce type de mission. Alors, il a décidé, semble-t-il, de se priver de l'élite du peuple, considérant que l'élite de ce peuple n'est pas suffisamment instruite ou compétente. Peut-être qu'il n'y a pas de bons orateurs dans ce peuple d'Israël. Pourtant, il aurait pu les utiliser, parce qu'il y a des réseaux d'influence, régionaux ou nationaux. Ça aurait certainement eu plus de poids pour ce que voulait faire Jésus. Ben, nous savons que non, il va choisir des hommes simples. Nous savons pour autant que Jésus n'est pas contre les élites intellectuelles du peuple d'Israël. Ne rencontrera-t-il pas Nicodème et d'autres? Mais pour cette mission, il a décidé d'avoir une autre démarche dans ceux qui devaient l'accompagner. Jésus n'est pas contre la culture intellectuelle, ni les compétences individuelles, bien au contraire. Mais dans son choix, parce qu'on le sait, parce que les Écritures nous le disent, on sait qu'il a choisi des personnes prêtes à remettre en cause leurs acquis, à se laisser transformer par lui. C'est certainement la raison pour laquelle il va délaisser ses 10 professionnels d'Israël de l'époque. Parce que peut-être pas encore prêts, ces professionnels, à se laisser conduire par Jésus, pour s'attacher les services d'hommes qui sont prêts à coopérer avec lui. Les hommes qu'il choisit sont-ils pour autant des hommes dociles, prêts à tout accepter? Des hommes sans arrière-pensée personnelle? Alors quand on lit les évangiles, on sait bien que ce n'est pas le cas. Moi, je vais vous proposer simplement quelques exemples pour vous rappeler que ces hommes qui vont suivre Jésus ont un caractère, ont du caractère. Vous vous souvenez des surnoms qui sont donnés aux frères Jacques et Jean? Fils du tonnerre. Vous vous souvenez de ce que demandent Jacques et Jean à Jésus, via leur mère, d'être assis à la droite et à la gauche, d'être les premiers? Vous vous souvenez de leur discussion quand Jésus est un peu en avant et qu'ils sont entre eux et puis qu'ils discutent de savoir qui serait le plus grand? Ou l'attitude qu'ils ont face aux petits-enfants qui viennent perturber Jésus qui est en train de se reposer? L'attitude de Pierre quand Jésus va être arrêté. Coupe l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur. Ou le reniement de Pierre alors qu'il s'était engagé vis-à-vis de Jésus de dire « Tout Seigneur, mais moi pas ». Bref, ils sont comme vous et moi, avec leurs qualités, et puis les choses qui vont moins bien, les choses qu'il faut améliorer. Oui, ces hommes ont du caractère, et il leur faudra plus de 3 ans avant de devenir des instruments, je ne vais pas dire dociles, mais des instruments zélés à la cause de Christ. Ce sont ces hommes désireux d'apprendre et de servir que Jésus va former en vue de la réalisation de son projet, la propagation de la bonne nouvelle. Et c'est après cette formation, et on le sait quand on lit le livre des Actes, qu'ils deviendront des êtres disposés à écouter, à recevoir, mais également à transmettre. Une fois encore, nous reconnaissons que la sagesse de Dieu est souvent folie pour les hommes. 1 Corinthiens 1, verset 20. Et Madame White, dans Jésus-Christ, page 232, nous dit cela. On rencontre dans les humbles sentiers de la vie des hommes occupés aux besognes les plus modestes et possédant, sans le savoir, des facultés qui, développées, les mettrait sur un pied d'égalité avec les hommes les plus honorés. De tels hommes furent appelés à devenir des collaborateurs de Jésus et eurent l'avantage de lui être associés. Dans ces conditions, on comprend mieux le choix de Jésus par rapport à ceux qui vont le suivre. L'autre question que je me suis posée, c'est pourquoi leur dit-il « Je vais faire vous des pêcheurs d'hommes ». Quel rapport existe-t-il entre un pêcheur de poissons, c'était leur métier, et un pêcheur d'hommes? À première vue, aucun. Vous connaissez tous le métier de marin-pêcheur, vous en avez entendu parler si vous ne l'avez jamais exercé, et vous savez quel est le sort qui est réservé aux poissons. Il n'est pas de rester au fond des filets, il va sur l'étal et après dans vos assiettes. Alors, comment peut-on comprendre cette mission que Jésus donne à ses disciples en leur disant « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Parce que nous savons que l'objectif de Jésus, c'est de faire connaître l'amour du Père à toutes les nations. Matthieu 28, les versets 19 à 1. « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Alors pourquoi pêcheurs? Il aurait pu dire, si vous rajoutez entre le P à la consonne et la voyelle, un R, il aurait pu dire « Je veux faire vous des prêcheurs d'hommes ». Ça aurait pu aller. Ou alors, Jésus veut-il faire un jeu de mots en associant le métier de ces hommes et la condition de l'homme, pêcheur? En français, ça s'appelle pareil. La première réflexion que je vous propose se situe au niveau de la spécialisation des pêcheurs. Parce qu'il existe deux types de pêcheurs. Le premier type, c'est le pêcheur amateur, celui qu'on appelle parfois le pêcheur du dimanche, celui qui pratique occasionnellement, selon son envie, son humeur, le temps, le moment. Nous savons que son existence ne dépend pas de la pêche. À tout moment, suivant les conditions, il peut ne pas pêcher. C'est une jeune personne. Il peut ranger ses lignes. Son activité ne met en cause aucune vie. S'il n'a pas envie d'aller pêcher ce jour-là, eh bien, il ne pêche pas. Puis il existe un second type de pêcheurs qui sont les pêcheurs professionnels, les marins-pêcheurs. Eux, c'est leur métier, ils en vivent, parfois difficilement. On sait que ce métier est un métier pas facile. On sort à peu près par tous les temps. Donc, quelles que soient les difficultés, il faut vraiment que la mer soit très mauvaise pour que les marins-pêcheurs ne sautent pas. Et ils n'ont qu'un seul objectif. Il est quotidien, ils doivent pêcher, parce qu'ils ont pour mission une mission alimentaire vitale pour la population. Si demain, les marins-pêcheurs cessent de sortir, dans toute la France, mes amis, vous ne mangerez plus de poissons. Ça va être difficile. Alors eux n'auront plus d'argent certainement, mais vous ne mangerez plus de poissons. À l'évidence, de ces deux types de pêcheurs, seul le professionnel est capable d'assurer une nourriture régulière à ceux qui ont faim. Alors on comprend mieux la première remarque que je voudrais vous faire, c'est que le Seigneur a choisi des hommes chez qui l'engagement n'est pas un vain mot, mais un choix de vie. Et puis, l'autre analogie avec le choix du pêcheur, il existe dans l'activité qui va être proposée aux disciples, se trouve son explication dans une histoire que j'ai entendue. Histoire vraie cette fois-ci, qui n'a rien à voir avec le zoo. Il s'agit d'un garde-pêche qui racontait que, lors des années de grande sécheresse, il lui était arrivé d'utiliser la pêche électrique. Vous savez, c'est interdit, totalement prohibé. Et devant l'étonnement de son auditoire, et l'indignation également, le garde-pêche en expliqua la raison. Il leur dit « Quand la sécheresse est au plus fort et que l'eau devient rare, le seul moyen de sauver les poissons est de les extraire rapidement de l'endroit où ils sont. » Et dans ces cas-là, la raison la plus simple, vous la connaissez, c'est que s'il y a moins d'eau, il y a moins d'oxygène, et moins d'oxygène, c'est la mort des poissons. Et donc, comme il faut agir rapidement et que prendre des épuisettes ou essayer de les ramasser dans les étangs, ça devient compliqué, c'est presque une mission impossible, ils avaient décidé d'utiliser le seul moyen efficace et rapide, l'utilisation de l'électricité. Alors, une faible décharge, paralysante mais non mortelle, permettait de recueillir le maximum de poissons et de les transférer d'un endroit où ils allaient manquer d'oxygène, où ils allaient mourir, à un endroit où il y avait suffisamment d'eau. La mission de ce garde-pêche, c'était de pêcher pour sauver des vies. Et c'est la même mission que Jésus propose à ses disciples. Pêcher pour sauver des vies. Même si au moment de leur acceptation, je ne suis pas persuadé que les disciples aient bien compris ce qu'ils allaient avoir à faire, Jésus fera bien d'eux des pêcheurs d'hommes. Et nous savons que l'aboutissement de la mission qu'il leur a confiée, nous le trouvons dans Actes, à partir de Actes 2, le jour de la Pentecôte, et tout ce qui va suivre par après, où l'Église va grandir sur, je ne veux pas dire le travail, mais la mission qu'ont accepté ses disciples et la façon dont ils touchent les cœurs de celles et ceux qu'ils rencontrent. Alors si nous avons compris pourquoi Jésus a choisi des hommes humbles, des hommes prêts à le servir, pourquoi il a utilisé ce vocable et pas un jeu de mots de pêcheur d'hommes, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est mais l'Église du XXIe siècle a-t-elle toujours les moyens de répondre à cet appel ? Comme les apôtres, nous connaissons Jésus. Comme pour les apôtres, Jésus nous propose la même mission. Comme chez les apôtres, nous avons nos faiblesses et notre tempérament. Et comme pour les apôtres, Jésus peut nous transformer. Cet appel à être pêcheur d'hommes n'est pas une invitation lancée à l'élite de l'Église, de nos communautés, mais à l'ensemble des membres qui la composent, c'est-à-dire à vous et à moi. Et ceci, quelle que soit notre éducation, notre culture, notre âge, nos talents, nos ressources, notre histoire, rien ne nous empêche. Bien sûr, nos communautés sont composées de personnes libres, libres de penser et libres de choisir. Et cette Église du XXIe siècle, dans sa diversité, reste toujours capable de répondre à cet appel. Les différentes facettes des personnes composant le corps de l'Église doivent, pour remplir cette mission, être pleinement conscientes qu'à la tête du corps de cette Église, il n'y a qu'un seul chef, Jésus-Christ. Dans Éphésiens, au chapitre 4, les versets 15b à 16, dans la version français courant, il est dit « Nous grandirons en tout vers celui qui est à la tête, le Christ. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. » Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Oui, notre engagement dans ce corps du Christ nous enseigne à respecter chacun des membres qui la composent, dans notre conduite, dans l'exercice de notre liberté, dans l'aide que nous pouvons apporter. Que nous le voulions ou non, nous dépendons les uns des autres pour la réussite de la mission que nous propose le Christ. Comme les pêcheurs de Galilée, nous avons beaucoup de choses en commun et tout particulièrement le don du Saint-Esprit, accordé à Dieu et à chacun des membres de l'Église, et le don de nous aimer les uns les autres, à cause de notre foi en Dieu. Alors, être pêcheur d'hommes reste une mission toujours possible à l'Église. Mais pour que cette mission réussisse, cela nécessite que l'Église soit d'abord, le foyer du pèlerin, l'endroit où l'on s'en sent chez soi, en sécurité, et non le club des croyants qui ont réussi. Que l'Église soit un lieu de tolérance et de solidarité, dans nos relations les uns envers les autres. Que l'Église soit un lieu de vérité et de discipline, basé sur l'enseignement biblique et non sur nos propres vérités ou nos interprétations personnelles. Et puis, que l'Église soit un lieu où l'on ne se sente pas seul avec ses problèmes, mais un lieu où l'on sait écouter, entourer et soutenir. Et puis, que l'Église soit un lieu où personne ne doit avoir à cacher ses infirmités, mais un lieu où chacun est accepté sans jugement au regard de son passé. Alors c'est en appliquant ces simples principes qu'il fera bon vivre dans nos communautés. L'oxygène y étant plus pur qu'à l'extérieur, et qu'il nous sera alors plus facile de répondre à l'invitation de Jésus, de devenir des pêcheurs d'hommes. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.